Faso IAFA, un programme de Studio IAFA.
Cette semaine, nous irons à la rencontre de femmes atteintes de la fistule obstétricale. Marginalisées et stigmatisées du fait de cette maladie, elles ont eu la chance d'être prises en charge en voie de rémission. Elles gardent les séquelles de ces moments difficiles de leur vie et nous partagent leurs témoignages. Des témoignages qui dépeignent la triste réalité de ces femmes, objet de moquerie au sein de leur communauté. Des comportements très souvent imputables au manque d'informations. Information. Momo a droit cette semaine à un cours sur la fistule. Qu'est-ce qui cause la fistule? Comment l'éviter? Le docteur Karim Kombasré nous dit tout ce qu'il faut savoir sur cette maladie. Les détails dans un instant. Voilà pour les principaux sujets qui seront développés dans le magazine Faso IAFA de cette semaine. Bonsoir et merci à vous qui nous suivez sur l'ensemble de nos radios partenaires à travers le Burkina. À la présentation, je suis Micheline Guigma. C'est une maladie qui prive les femmes de leur dignité. Même si on n'en parle plus trop ces dernières années, la fistule obstétricale touche encore de nombreuses femmes au Burkina Faso. Ramatou et Sophie sont deux femmes qui, parce qu'elles sont victimes de cette maladie, ont vu leur existence chamboulée. Leur récit dans ce reportage de Olivia Yen.
Mon mari a compris la situation, mais pas sa famille. Les médecins ont dit que je ne pouvais plus avoir d'enfants. Ma belle famille a donc conclu que mon mari devait me répudier. Ils lui ont trouvé une autre femme. Je vis actuellement dans ma famille.
La tête baissée, Ramatou, 28 ans, originaire de Zungu dans le Ganzourgou, compte sa douloureuse aventure avec la fistule. Assis sur son lit d'hôpital, l'air pâle, son pain noué à la taille laisse entrevoir une sonde urinaire, résultat d'une intervention chirurgicale subie il y a à peine une semaine.
J'ai été en travail pendant 3 jours avant d'accoucher. C'est à la suite que j'ai été victime de la fistule. Dès qu'on est rentré après mon accouchement, j'ai remarqué que les urines coulaient le long de mes jambes. On est retourné à l'hôpital, d'où on nous a référé à Tinkodogo. Mais nous n'avions pas les moyens. J'ai compris la gravité de la maladie quand je ne pouvais plus aller avec mon mari et que pendant mes causeries avec les autres, mes habits étaient mouillés dès que je me mettais à rire. Les gens te fuient car tu deviens comme un enfant à sentir l'urine. Cette dernière opération m'a redonné la santé.
Ramatou partage sa chambre avec 4 autres femmes victimes aussi de fistules. Tout comme Ramatou, elles ont été stigmatisées du fait de la maladie. Native de Komianga dans la province du Koulpelo, Sophie est de nouveau en harmonie avec elle-même. Elle vient de subir une chirurgie réparatrice.
Autrefois, que je me lève ou m'asseye, que je tousse ou que je veuille rire lors d'une causerie, il coulait de l'urine. Je ne pouvais pas m'asseoir au milieu des gens. J'étais tout le temps cachée dans la maison. C'est une honte pour une grande personne que de s'asseoir et que l'urine coule sur soi. À présent, je me sens fière.
Un accouchement difficile, c'est ce qui est à la base de la maladie de Ramatou et Sophie. Professeur Chalmay Ouedraogo, gynécologue obstétricien des hôpitaux, explique.
C'est une complication grave et invalidante de l'accouchement. La fistule, c'est lorsque, au décours d'un accouchement, il y a une communication entre la vessie et le vagin ou entre le vagin et le rectum. Il arrive qu'il y ait une communication entre la vessie et le vagin et en même temps entre le rectum et le vagin. Et en pratique, la femme perd de façon involontaire les urines ou des selles qui s'évacuent par le vagin. Lorsqu'il est diagnostiqué tôt, le traitement est simple et la femme retrouve toute sa continence. On ferme les différents orifices qui se sont créés au décours de l'accouchement. Mais lorsque c'est vu très tard, le traitement est décevant avec parfois des rechutes qui nécessitent tout le temps des reprises chirurgicales.
Depuis 2016, le gouvernement burkinabé a intégré dans la politique de la gratuité des soins aux mères et aux enfants la prise en charge gratuite des femmes victimes de fistules obstétricales. Des associations qui œuvrent dans la lutte contre la maladie aident également dans ce sens.
Omo et Nafou.
En plus de supporter les effets de la fistule, les victimes doivent endurer les regards et les railleries des autres. Et parfois, les autres, c'est nous qui manquons d'informations. Momo se moque d'une femme atteinte de la fistule obstétricale, mais il est vite ramené à la raison par son ami Nafou, qui profite à lui dire ce qu'il faut savoir sur cette maladie. Suivons.
Bonjour Nafou.
Bonjour Momo.
Nafou. Oui. On va rire un peu.
On rit de quoi?
On dit que la femme d'en face là est une coule sans arrêt. Même son mari a fui. Franchement, il ne faut pas rester à côté d'elle. Elle pue trop. Elle sent.
Momo, hein? Tu ne sais même pas ce que tu dis. Comment tu peux te moquer comme ça d'une personne qui souffre? Momo, c'est inhumain.
Aïe. Quoi?
Tu viens de décrire comme ça la vie de mon ami là.
Pardon, attends. Tu pleures? C'est arrivé là-bas où?
Momo, oui. Hein? C'est sérieux, tu sais. Lala a une fistule obstétricale. Depuis son accouchement compliqué, Momo. Elle ne peut plus contrôler son urine. Son mari l'a chassée du foyer. Momo, sa propre mère l'a renvoyée au village, au marché. Les gens refusent de la servir. Les enfants la fuient, Momo.
Dieu.
Elle vit seule.
Elle a fait quoi pour mériter tout ça?
Rien, Momo. Absolument rien. Elle a juste accouché sans assistance. Elle était trop jeune. Elle a eu cette blessure-là. Et le monde entier l'a punie comme si c'était de sa faute.
Mais personne ne l'aide. Pas même les femmes du quartier, personne.
Non, personne. Elles disent qu'elle est maudite. Qu'elle apporte la honte. Elle ne sort plus. Elle reste enfermée. Elle parle seule parfois. Elle m'a dit, Nafou, même les chiens ne sont pas aussi rejetés que moi. Et toi, Momo, tu oses faire des blagues sur ça?
Pardonne-moi, Nafou. Je suis désolé. J'ai honte. Je ne savais pas que c'était comme ça. Je pensais que c'était juste une maladie gênante.
C'est une blessure physique, Momo. Ah. Oui. Même ça, on ne se moque pas d'un être humain, Momo. Aussi, l'exclusion sociale, elle détruit l'âme, Momo. Ces femmes perdent tout. Leur famille, leur mari, leur place dans la société. Et pourtant, avec une opération, on peut les guérir. Mais le regard des gens, ça, c'est plus difficile à soigner, Momo.
Nafou,
oui.
Je veux faire quelque chose. Je peux lui rendre visite, lui parler, et même dire aux autres de se taire.
Ce serait un bon début, Momo. Un très bon début. Car si chaque personne, au lieu de juger, décidait d'aider, le monde guérirait un peu plus chaque jour. Après, tu viens, on va l'accompagner dans un centre de santé pour les formalités. De plus, je crois que c'est gratuit, la prise en charge. Arrêtons, Momo. Arrêtons un peu la stigmatisation des victimes.
C'est compris. Nafou, de tout cœur, je m'excuse une fois de plus, c'est compris.
La fille qui barre.
Comme nous l'avons déjà entendu, la fistule est une lésion qui peut se produire lors d'un accouchement prolongé ou difficile. Mais existe-t-il d'autres facteurs de risque? Peut-on en guérir complètement et comment la prévenir? Le docteur Karim Kombasere, spécialiste en santé publique internationale, donne des réponses au micro de Emerola Ouedraogo.
Docteur Karim Kombasere, qu'est-ce qu'une fistule obstétricale et comment se présente-t-elle?
Je dirais d'emblée que la fistule obstétricale, c'est une lésion qui se forme lors d'un accouchement qui est prolongé ou bien d'un accouchement difficile en raison soit d'un manque d'assistance médicale appropriée. C'est une communication anormale entre le vagin, le sexe de la femme et la vessie. En ce moment, il y a une perte d'urine. Ça peut être le vagin et le rectum ou bien les deux.
Et selon vous, quels sont les facteurs de risque les plus courants dans nos régions?
Dans nos régions, les facteurs de risque les plus courants, c'est beaucoup plus l'accouchement prolongé et dystocique, c'est-à-dire l'accouchement compliqué, un travail d'accouchement qui va durer longtemps, plus de 12 heures chez une femme, une jeune femme le plus souvent qui n'a jamais accouché, ou bien qui a plusieurs fois accouché. Et ensuite, vous aviez le manque d'assistance médicale. Par exemple, un accouchement compliqué qui ne bénéficie pas d'une césarienne rapidement, ça peut affaiblir tout ce qu'il y a comme filière génitale et tout ça. Et puis ça peut créer des lésions. Ensuite, vous savez, dans le contexte d'absence ou d'accès limité aux soins obstétricaux, ça peut entraîner tout ça. Peut-être certaines femmes qui ont un bassin très rétréci ou qui ont un fœtus très volumineux, souvent c'est difficile lorsqu'on veut forcer pour faire un accouchement par la basse.
Et quels sont les symptômes alertant les femmes après un accouchement difficile?
Comme je disais, il y a plusieurs formes, mais parmi ces formes-là, il y a symptômes, on peut avoir par exemple la fuite d'urine ou des matières fécales à travers le vagin, le sexe de la femme.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la fréquence naturellement et après combien de jours de l'accouchement?
Comme je dis, il n'y a pas de jours. En fait, si la lésion survient seulement, les urines n'ont pas de jours pour venir. Les selles aussi n'ont pas de jours pour venir. Mais le plus souvent, après l'accouchement, on peut avoir des fuites d'urine ou de selles à travers le vagin de la femme, le sexe de la femme. Donc, c'est ce qu'on appelle l'incontinence. Deuxièmement, on peut avoir des douleurs au niveau du pelvis, au niveau de l'appareil génital, ou bien des infections urinaires ou vaginales répétées, d'accord? Donc, et puis vous avez, lors des urines, la femme qui peut ressentir ce qu'on appelle les douleurs à la miction. Donc ça, ce sont des signes,
des symptômes
qui peuvent amener à fouiller pour voir est-ce qu'il n'y a pas une fistule.
Et comment se déroule le traitement d'une fistule dans un centre de santé et si oui, traditionnellement aussi?
Dans un centre de santé, je pense que au Burkina Faso, on est engagé avec les gynécologues, surtout les chirurgiens, à lutter contre cette fistule-là qui est dégradante souvent pour nos mamans et nos femmes. Et le plus souvent, il y a des séances de chirurgie, de réparation de cette fistule-là.
Gratuite ou...
Le plus souvent, c'est gratuit quand vous vous adressez à la bonne personne ou à la bonne structure.
La bonne personne, la bonne structure, c'est qui?
Généralement, c'est les structures étatiques.
Traditionnellement, est-ce que c'est faisable?
Je ne pense pas, traditionnellement. Parce que là, il s'agit d'une chirurgie. Je n'y connais pas une pratique traditionnelle qui permet de traiter les fistules.
Okay.
Je pense que le mieux, c'est chirurgical.
C'est de se rendre dans un centre de santé.
Voilà, il faut se rendre dans un centre de santé. Le traitement, il est sûr, il est connu de tous et c'est gratuit.
Est-ce qu'on peut en guérir définitivement?
Bien sûr, on en guérit définitivement. Après une chirurgie, c'est fini.
Quelles sont les actions nécessaires pour prévenir les cas de fistules?
Il y a plusieurs actions. Par exemple, la prévention primaire, c'est l'éducation. L'éducation, l'autonomisation des femmes. Si les femmes sont bien éduquées, sur les dangers de l'accouchement prolongé, l'importance d'aller se faire consulter à l'hôpital pour voir s'il n'y a pas des dangers qui vont survenir lors de l'accouchement, ça peut être intéressant. Ça permet de réduire les questions de malnutrition chez les jeunes filles, ainsi de suite. Au niveau secondaire, c'est les soins prénatals. Les soins prénatals, c'est vraiment amener les femmes et les jeunes filles, lorsqu'elles sont enceintes, d'aller consulter dans un centre de santé, permet de suivre la grossesse au long terme, jusqu'à l'accouchement. La prévention tertiaire, qui est l'intervention chirurgicale, nous avons ce qu'on appelle les soins obstétricaux d'urgence, qui est utilisé beaucoup plus dans presque tous les centres de santé, qui permettent de garantir l'accès rapide à un accouchement sécurisé, que ce soit par la césarienne ou en tout cas par l'assistance médicale d'un personnel qualifié. Et tout ça, ça permet de résoudre les questions de fistule, sans oublier le renforcement du système de santé.
Pour ces conseils et informations, merci beaucoup, docteur.
Merci à vous.
Kibar utile.
Les femmes atteintes de la fistule peuvent compter sur l'accompagnement de la Fondation Rama. Créée en 1990, la Fondation vient en aide aux femmes victimes de fistules obstétricales en facilitant leur prise en charge médicale ainsi que leur réinsertion dans la société à travers la formation à des activités génératrices de revenus. Sa mission est de faire en sorte qu'il y ait zéro femme victime de fistules obstétricales à l'horizon 2030. Comme l'indique Rasmata Kabré, fondatrice de la Fondation Rama. Elle s'exprime au micro de Olivia Yen.
Bonjour madame.
Bonjour.
Dites-nous, votre fondation existe depuis combien d'années?
La Fondation Rama, c'était d'abord un groupement féminin et c'est devenu une association. Ça a commencé d'abord dans mon propre village parce que mon village était enclavé, pas d'école, pas de dispensaire. Donc rapidement, j'ai créé un groupement féminin. Et après ça, beaucoup de villages m'ont sollicité de les aider. Et en 2006, on a commencé à nous intéresser maintenant à la question de la fistule. Parce que quand nous sortons sur le terrain pour la sensibilisation, il y a des femmes qui viennent vers moi pour se confier après mon accouchement. Mes urines coulent ou bien c'est les selles qui coulent. Je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas m'intéresser à la fistule au Burkina.
Quels sont les services que regroupe votre fondation?
Nous avons un centre médical. C'était d'abord un centre de santé. Également, nous avons une école de la maternelle jusqu'en classe de CM2. Pour que les enfants de ces femmes qui viennent ici ne soient pas stigmatisés.
Quel est votre objectif premier?
Notre objectif, c'est de travailler de telle sorte qu'il y ait zéro fistule au Burkina Faso. Chaque année, on recevait 200, 300 cas. Donc, nous avons fait un plaidoyer, pourquoi pas, ne pas insérer ça dans les curricula de la formation des agents de santé. Et je pense qu'au niveau des écoles de santé, que ce soit public ou privé, les curricula, on a inséré ça. Parce qu'au tout début, je vous assure qu'il y avait des agents de santé même qui ne connaissaient même pas ce que c'est que la fistule obstétricale. Donc notre objectif est en train de bouger doucement, doucement. On s'est donné rendez-vous que si Dieu nous donne la santé et la longue vie, en 2030, on va se retrouver pour parler, mais il n'y aura plus de fistule, peut-être quelques cas de fistule, mais...
Mais parlant de cas, comment est-ce que vous faites la sélection des dames que vous aidez dans votre fondation?
On a eu la chance de nous implanter dans les 45 provinces du Burkina. Avec le soutien du ministère de la Santé et de l'UNFPA, l'UNFPA nous a soutenus en 2014 et nous avons pu former des associations sœurs qui sont dans les 45 provinces du Burkina comme des personnes relais. Également, les femmes qui viennent se soigner ici, quand elles sont guéries et qu'elles veulent rentrer, on leur donne une formation parce que nous les utilisons comme des personnes relais. Elles se connaissent. Donc, quand elles repartent sur place comme ça, avec les associations sœurs qui sont sur place, c'est elles qui identifient parce qu'elles se connaissent. Avec l'UNFPA et le ministère de la Promotion de la Femme, nous avons pu former 68 femmes 2018-2019. Et nous les avons dotés des vélos et des téléphones portables. Celles qui sont guéries les accompagnent pour venir, pour leur assurer de ne pas avoir peur. Elles vont retrouver la santé. Et elles viennent rester au centre d'hébergement ici, les accompagner même à l'hôpital, les assister, parce qu'une fois qu'elles ont été opérées, elles reviennent à la Fondation Rama. Parce qu'on leur donne des rendez-vous pour des suivis. Et comme elles viennent de loin, on ne peut pas les laisser repartir. Donc, elles vont venir suivre leur visite de routine. Une fois qu'elles sont guéries, nous leur demandons « qu'est-ce que vous voulez ?» Nous avons trois formations, la saponification, maraîchiculture et puis le tissage. Et bientôt, nous voulons insérer le volet couture. Parce que quoi qu'on dise, la fistule obstétricale, la base, c'est la pauvreté. Donc, après la formation maintenant, on leur donne de l'équipement et puis la matière première et puis on les accompagne.
Quelles sont les difficultés que rencontre votre centre?
La Fondation Rama cherche à être autonome. Et pour être autonome, il faut mener des activités génératrices et revenus. On avait un forage. À l'heure actuelle, notre forage nous a lâchés. Nous lançons vraiment un appel à des bonnes volontés de nous aider à remettre ça. Et deuxième difficulté aussi, les agents de santé, c'est les volontaires. une fois qu'ils gagnent mieux, sont obligés de partir. Les enseignants aussi, c'est la même chose.
Outre les personnes que vous avez formées qui sont dans les provinces, comment une femme qui est atteinte de fistule obstétricale peut prendre attache avec vous?
Nous travaillons beaucoup avec les centres de santé, avec l'action sociale, les CHI, les CMA, nous travaillons avec eux, avec des fiches de référence. Avant de confirmer qu'une femme a la fistule obstétricale, il faut d'abord aller dans un centre de santé. Et on peut nous contacter aussi directement au 70 26 02 24 ou le 70 43 32 02 ou le 78 70 15 47.
Merci beaucoup, madame.
Merci beaucoup.
Bonne arrivée.
Au secteur 3 de Kaya, des jeunes hôtes et déplacés internes ont pris l'habitude de se retrouver pour partager le thé. Notre envoyé spécial Janvier Sommé a échangé avec eux dans leur grain de thé. Écoutons.
Bonsoir, nous sommes au secteur numéro 3 de Kaya, non loin du Grand Marché. Voilà, nous sommes dans un grain de thé. Je vais laisser la parole à tout un chacun afin de se présenter.
Oui, moi c'est Kouila Toussaint, je suis à Kaya, ça vaut environ 24 ans comme ça, je suis étudiant.
Bonsoir Monsieur Soumé, moi c'est Salogo Roubaix, je viens de Bassalogo et je suis à Kaya ici depuis 2022, voilà, suite à la crise sécuritaire.
Que pensez-vous de la cohésion sociale de façon générale?
La cohésion sociale, c'est les relations qui existent entre les différentes communautés. Donc on peut prendre ici l'exemple des déplacés avec les personnes hautes.
Mais quels sont les exemples de solidarité que vous avez eu déjà à voir ensemble?
Okay, ici, on peut dire que les relations sont bonnes entre déplacés et personnes hautes. À l'instar de, on a au moins deux exemples, sites qui ont été installés sur des domaines des hautes. Voilà, on a le site du secteur 4 et le site du secteur 7, plus précisément à Gawa, où on avait 300 abris et 600 abris au secteur 4.
Bonsoir, moi c'est Kabri Gibril. Je suis de Jiniaré, je suis à Kaya, ça fait 2 ans, donc je suis dans le domaine du commerce.
Moi, à mon niveau, voilà l'exemple que je peux donner voilà, concernant Haute et PDI. Nous, à notre arrivée, voilà, il y a eu des personnes de bonne volonté, surtout le voisinage, voilà, qui nous ont aidés avec un coin où s'habiter. Et après cela, on a eu des dons voilà, de diverses qualités. Voilà, donc ça, je trouve vraiment que c'est des actes à saluer. Et également, ce que j'ai ajouté, quand j'étais à Bassalogo, je vendais les pièces des motos. Voilà. Et quand je suis venu ici, voilà. Et en tout cas, il y a une personne de bonne volonté qui m'a pris sur lui. Voilà. Que je continue à exercer mon métier d'avance. Voilà.
Est-ce que la cohésion sociale là, entre les voisins et vous, est-ce que vous arrivez à vous entendre?
Ça se passe normalement. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et il n'y a pas de dénigrement. Il y a le respect mutuel, en tout cas, ça se passe. Voilà.
Voilà, monsieur Cabré, vous êtes quitté Zignaré pour venir à Kaya. Est-ce que depuis que vous êtes à Kaya, est-ce que vous avez ressenti cette fraternité entre les PDI et les personnes pauvres?
Bon, merci pour la parole. Quand je venais ici en 2022, bon, j'étais inquiétant. Mais dès que je suis arrivé à Kaya, vraiment, j'ai très bien accueilli. J'ai très bien accueilli. Là, je peux voilà, être reconnaissant. Je me sens à l'aise ici avec les autres. Donc, il n'y a pas de problème particulier voilà, entre les autochtones et moi. Souvent même, on part au grain, on s'assoit, on prend du thé. S'il y a quelqu'un, par exemple, un voisin qui, voilà, qui a un problème, voilà, on cotise et puis voilà, on parle l'aider. Voilà, donc vraiment, c'est un acte à saluer. Bon, par exemple, au grain ici, souvent, un élément peut amener du sucre. Souvent, il y a des gens même qui passent et puis nous donnent des... Voilà, il faut prenez, vous allez, voilà, faire l'ambiance et puis voilà. Vraiment, on se sent à l'aise. Voilà, on n'a pas besoin que, voilà, c'est toi qui dois assister aujourd'hui, toi. Non, non, non.
Oui, je peux ajouter aussi, au niveau des cérémonies, genre baptême ou mariage, là, on se retrouve là-bas, il n'y a pas de différence entre PDI et autres. On se retrouve tous ensemble, c'est la famille, on gère et puis on se libère encore après. Chacun va à ses occupations.
Ok, merci à tout le monde et bonne soirée à vous.
Sharaf Koulibaly est l'invité cette semaine à Deux Music Live. On le retrouve en studio avec Emerola Ouedraogo.
Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue également Sharaf Koulibaly.
Oui, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à toi aussi. Merci de m'avoir reçu dans votre studio.
Dites-nous, qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous?
Il faut dire que je viens de sortir mon nouvel album, qui est le second, 20 ans après. Voilà, voir tout ce que le monde traverse, et le Burkina et la sous-région. Nous avons vraiment besoin de paix, de sensibilisation, de cohésion. Donc, j'ai voulu donner aussi ma voix. Ça pourrait tomber dans des oreilles attentives.
Bien sûr.
Et ça pourrait toucher des cœurs. Pour changer des comportements,
okay.
Pour que nous puissions vivre ensemble dans la paix.
Ok, Sharaf Koulibaly, vous avez grandi dans un univers musical très riche grâce à votre père. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette transmission familiale?
Faut dire que ça n'a pas vraiment été une transmission parce que mon défunt père ne voulait pas du tout que je fasse de la musique. Il n'aimait pas que je touche à sa guitare. Parce que j'avais joué au têtu, je ne suivais pas bien mon cursus scolaire. Donc ça fait qu'on ne s'entendait pas beaucoup. Voilà. Mais lorsqu'il jouait à la guitare à la maison, moi je me cachais, je le regardais. Et quand il dépose, je prends la guitare et j'essaie de jouer. Un jour il m'a surpris, il est entré dans une colère noire. Et, bon, j'ai laissé. Mais quand même, étant toujours à côté de lui, puisqu'il était le chef d'orchestre de la gendarmerie. Donc, j'ai appris à faire le câblage des instruments de musique et tout ça, tout en apprenant à jouer de la guitare loin de la maison. Et lorsque j'ai composé ma toute première chanson, je suis allé faire une pré-maquette à l'insu du papa. C'est un jour, on lui a dit qu'on a vu ton fils à la télé. Il dit, mais il faisait quoi là-bas? On dit non, qu'il chantait. Malheureusement, il est parti très tôt. Et il n'a pas vu la sortie de mon premier album et tout ça. Ni ma faute, qui m'a folé, ni ya faute, qui m'a louné, ni na. Ni ma faute, qui m'a folé, ni ya faute, qui m'a louné, ni na. Bade manga ya keto, kone ye denye, ne te kolon, ne ba ya fonye na londora ho. Oh, yinikari kela te filila, abe mena tamana le. Netunya longa fonye metamana woho, okaf zanga finta yoromo. Ambiseli la muna, ambe suna muna, ambe limanya yala muna. Kasuranya keta utibena, daube dunye nyanyini na ho. Anube nyohonya nyini na Daube tunye nyanyini na ho Anube nyohonya nyini na Ni mafo okwi mafo le Ni yafo bibi molu neni na Ni mafo okwi mafo le Ni yafo bibi molu neni na Sanyan kato afo Ajehe doti selikoyi
La chanson est chantée exclusivement en langue nationale Djula. En substance, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette chanson?
Dans les chœurs, j'ai dit que lorsque tu ne dis pas, les gens disent que tu n'as pas dit. Lorsque tu dis aussi, souvent on trouve que tu insultes les gens. Je présente mes excuses à tous les aînés, les parents, les grands-parents, car je ne suis qu'un enfant, je ne sais rien. Mais on m'a dit que celui qui se renseigne ne se trompe jamais.
Bien sûr.
Il tarde seulement sur la route et il finira par arriver là où il va.
Un mot pour vos fans, en particulier ceux qui vivent dans des situations difficiles à cause de l'insécurité.
Tous ceux qui ont déjà écouté Sharaf, tous ceux qui viennent de découvrir, je leur dis merci. Je leur demande de partager ma musique. De toute façon, elle les touche, ça pourrait continuer à toucher d'autres personnes. Et ce que je peux dire aussi aux frères burkinabés qui ont été obligés de partir de leur localité pour se retrouver dans d'autres localités par la force des choses, il n'y a rien sur cette terre qui n'a pas de fin. Donc tout ce que nos pays traversent, ça va finir. Les jours de joie vont revenir. Il faut être résilient. Il faut qu'on s'impose à soi-même d'abord la paix pour avoir la force d'accepter l'autre. Voilà. Sinon, si on se met dans une position revanchard, on ne va pas en finir.
Merci infiniment, Sharaf Koulibaly, pour cette interpellation à une bonne cohésion. Et merci également pour ces moments de vérité, de partage et de mélodie que la voix continue de porter loin, d'éveiller les consciences et de s'aimer l'espoir partout où elle passe. Merci encore et que Dieu fasse régner la paix au Burkina Faso.
Merci beaucoup. Ni ma foi, qui m'a volé, ni ya foi, ni mon
menina. C'est ici que prend fin notre émission. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à nos programmes. Restez connectés au www.studioyafa.org pour ne rien rater de nos programmes. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.